Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et depuis 2018, j'accompagne les indépendants dans le développement de leur business, mais aussi à trouver la place qu'ils veulent lui donner dans leur vie. Et ce notamment grâce à une expérience communautaire que j'ai conçue en 2020, Inside Freelancing. Et cette semaine, dans le podcast, on va justement aller explorer cette forme de proposition que tu as sûrement vu naître de plus en plus sur Internet, la communauté sur adhésion. Et pour vous ouvrir les portes sur les coulisses de ce modèle là, et sur la force des communautés pour le développement de nos activités, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon ami Kylian Talin à mon micro. Kylian aide les créateurs à mieux produire, mieux diffuser et monétiser leurs créations pour vivre de leur créativité, notamment grâce à son propre espace communautaire sur adhésion, le Cercle des Créateurs. Dans cet épisode, on développe avec Kylian nos réflexions respectives et notre vision sur ce sujet des communautés sur adhésion et sur le sujet des communautés au sens plus large d'ailleurs, leur importance dans le développement de nos activités et de nos processus créatifs respectifs, mais aussi ce qu'on observe des personnes qui font partie de nos communautés. Et on fait aussi référence à des exemples historiques de ça, notamment pour moi Tolkien qui me fascine en ce moment et dont la vie illustre aussi ses points sur la communauté. Et bref, plein d'autres choses sur les coulisses de nos aventures en tant que créateurs et animateurs de ces communautés respectives. Et en parlant de ça d'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux ici à m'écouter, à attendre la réouverture des portes de Inside Freelancing. Et le meilleur moyen pour être tenu au courant de ça, c'est de rejoindre ma newsletter sur thomasburbidge.com/newsletter. C'est là où tu auras accès en tout premier aux nouvelles places dès que je les proposerai. Mais sur ce, je te laisse te plonger dans la conversation du jour avec Kylian et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bonne écoute. Bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Kylian.
Salut Thomas, merci de m'accueillir, c'est très cool.
Avec plaisir, avec plaisir.
je voyais le petit décompte 3, 2, 1 en haut et je me suis dit, il faudrait faire, tu vois, comme le démarrage au cinéma. 3, 2...
C'est parti. Une vague de bonnes vibes qui arrive dans votre direction.
Yes, exactement. Mais en tout cas, merci de m'accueillir. Très content d'être là.
Ouais, moi aussi. Je te propose qu'on rentre direct dans le flow parce qu'on va avoir plein de choses à se dire, mais commençons par le commencement, qui est cette question rituelle que tu connais, je crois, de comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant, Kylian ?
C'est une très bonne question. Je pense que la vraie raison qui m'a poussé à me lancer à mon compte, c'est de pouvoir passer encore plus de temps à chasser mes projets, à chasser mes rêves et avoir encore plus de temps pour aider les personnes que j'ai envie d'aider. Je pense que c'est vraiment le moment clé et le point de basculement, il est là. Je travaillais avant dans une boîte incroyable que j'aimais beaucoup qui s'appelait Live Mentor, qui fait de la formation pour des gens passionnés, pour développer leur activité. Et j'adorais ce que je faisais. Donc, je suis vraiment pas parti à contre-cœur. C'était vraiment des gens géniaux, une équipe géniale et puis vraiment un taf génial. Vraiment, je m'éclatais. Mais t'as un moment où t'as cette frustration du temps que tu passes sur ton taf principal versus le temps que t'as envie de passer sur les projets qui sont encore plus importants pour toi, qui devient plus important. Et je pense que quand ce curseur-là bascule, c'est aussi que la frustration devient trop importante et qu'il faut se lancer à son compte. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire.
Et comment ça s'est passé, du coup, la transition de l'un à l'autre? Parce que je me dis, ton cas n'est pas un cas isolé. Il y a plein de personnes qui sont dans ce cadre de job dans une boîte qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, mais qui veulent transitionner vers le modèle indé. Comment t'as fait pour structurer un peu cette transition? Je sais que t'as pris le temps d'y réfléchir, de poser des briques, de le faire de manière fluide, pas vraiment en mode le grand saut dans le vide qu'on peut imaginer que c'est parfois. Donc je suis curieux que tu nous parles un peu de cette phase transitoire, comment tu l'as préparée, c'était quoi ta réflexion dessus, quoi.
Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai eu envie d'avoir ce luxe de pouvoir faire une transition douce. Je pense qu'il y a des gens qui ne l'ont pas tous. Tu peux avoir des transitions qui sont violentes, qui peuvent être liées à des licenciements, qui peuvent être liées à des gros problèmes, à des burn-out, à des conflits internes avec la boîte qui t'emploie. Donc moi, j'ai eu ce luxe de pouvoir faire cette transition douce. Et en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que je ne savais pas quand j'allais partir, mais je savais qu'à un moment, j'allais partir. Parce que j'avais cette fibre en moi, cette envie de travailler, de lancer mes projets, de les développer, de les faire grandir. Et je pense que, d'ailleurs, même Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor, savait très bien qu'à un moment, j'allais bouger et voler de mes propres ailes. Et du coup, assez tôt, je vais dire peut-être un an et demi ou pas deux ans, mais ouais, une bonne année avant que je décide de me lancer à plein temps sur ce que je fais, je me suis dit comment tu peux mettre en place, moi j'ai appelé ça un actif, tu vois, en tout cas des choses qui vont m'aider le jour où je vais pouvoir, où je vais vouloir me lancer à mon compte. Et donc, j'ai réfléchi aux personnes que j'avais envie d'aider, à ce que j'avais envie de partager. Et les choses qui me parlaient, moi, bien intérieurement, c'était la création. Et donc, ça a commencé pour moi un an et demi avant que je me lance, avec Inspiration Créative, où je me suis dit, OK, comment grâce à un podcast, des interviews, tu peux aller aider toutes les personnes qui créent en France à créer un peu mieux. À l'époque, c'était très flou, hein. On trouve des mots qui sont plus précis aussi au fur et à mesure de l'aventure, mais vraiment avec cette logique-là de vivre de sa créativité. Et en fait, voilà, j'ai fait ça pendant un an et demi. Donc, t'as une période un peu lourde où t'as les deux en parallèle. Donc, tu fais la journée de taf, mais le matin à 7h ou le soir à 20h, 21h, tu bosses sur tes projets. Donc, ça te fait un peu des doubles journées. Et c'est un peu plus compliqué, mais ça permet aussi au moment de se lancer d'être plus serein. Et du coup, moi, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Et quand j'ai envoyé ma démission et décidé de partir, voilà, il y avait déjà une communauté, il y avait déjà des gens autour pour avancer, des gens qui étaient intéressés aussi et qui me demandaient si j'allais proposer des trucs pour les créateurs. Donc, voilà, je pense que c'est bon signe aussi d'avoir ces signaux-là qui t'indiquent qu'il y a de la demande.
Ouais. Et c'est intéressant que tu parles de ça puisque j'ai publié récemment un article où j'explique, moi, ma transition du modèle freelance avec des missions et des clients vers le modèle que j'ai davantage aujourd'hui qui est basé sur le fait de délivrer du savoir en mode infoprenariat, formation, enfin bref, de proposer des choses à ma communauté, mon audience. Et je parlais aussi de comment, sans vraiment le savoir, parce que c'était pas à 100% conscient comme j'ai l'impression que toi c'était davantage le cas, je m'étais construit des actifs, comme tu le dis si bien, moi j'utilisais le terme effet de levier aussi, qui me permettait de faire en sorte que la transition soit douce, voire même avantageuse si ce n'est que sur le critère chiffre d'affaires, mais aussi sur le critère kiff des projets. Et je pense que c'est hyper intéressant de se poser cette question, surtout quand on est dans une boîte, et de se dire, OK, je sais que je vais dans cette direction-là, qu'est-ce que je peux construire en parallèle de ma source principale de revenus actuelle qui facilite la transition, quoi. Plutôt que de se dire, je repars de zéro, comment faire pour construire cette sorte de brique intermédiaire et moi, ça a été pareil, le podcast, les articles, tous les contenus pédagogiques que j'ai créés pendant 2-3 ans avant de mettre fin à toutes mes missions freelance, qui ont fait que ensuite, bah, ça s'est accéléré quand je me suis mis à 100% là-dessus, quoi. Et j'imagine t'as ressenti ça un peu aussi, c'est j'ai ouais. déjà tous les outils pour faire en sorte que la nouvelle forme de mon activité aille plus vite dans son déploiement.
Ouais, complètement. Alors c'est un truc que je veux te dire, c'est que c'est surtout pas quelque chose qui est ultra pensé d'avance. Tu vois, c'est pas machiavélique ou avec un plan en disant ok, je vais faire ça, etc. Et très stratégique, tu vois. On le post-rationalise comme ça. Mais à vrai dire, ouais. C'est beaucoup plus spontané que ça. Moi, la question que j'avais, c'était comment je peux construire des choses qui m'appartiennent dans le futur et qui pourront m'être utiles. Et c'est vraiment la question centrale. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a des atouts? Est-ce qu'il y a des endroits où je vais pouvoir communiquer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour, à un moment, pouvoir les utiliser? Tu parlais d'effet de levier, c'est exactement ça. Et les utiliser pour grandir, servir, aider et moi aussi m'épanouir dans mon activité. Et ça peut. Les premières réflexions que j'avais à ce niveau-là, c'était pas forcément même des actifs comme je l'utilise ou des assets comme je le dis maintenant, mais c'était même tout simplement des compétences. Qu'est-ce que tu as envie de bâtir comme compétences qui, au moment où tu vas te lancer, vont te permettre de pouvoir rayonner un peu plus ou t'épanouir un peu plus. Et moi, je me suis rendu compte que ça l'a fait super bien avec plein de compétences que j'ai développées chez Live Mentor. Ce qu'on faisait avec les lancements, ce qu'on faisait avec qu'est-ce que c'est qu'une formation, comment transmettre la connaissance. Et toute la réflexion derrière aussi sur l'aspect plus média sur lequel Live Mentor a été une superbe école aussi. Et tout ça, voilà, ça vient dans le temps. Mais je tiens à dire que c'est pas autant rationalisé d'avance, quoi.
Ouais, et clairement, moi, c'est exactement la même chose. Je le disais dans l'article d'ailleurs, que j'ai construit ça sans m'en rendre compte. Et que, a posteriori, effectivement, comme tu le dis, tu te dis, ah putain, en fait, c'est ouf, c'est super puissant ce que j'ai fait. mais je me dis aussi que du coup, de le savoir en avance, ça peut permettre à d'autres personnes de le poser de manière peut-être plus conscientisée. Et que donc tu peux peut-être même mieux l'exploiter encore et fluidifier cette transition, tu vois. Et je pense qu'effectivement il y a une part et je pense on va creuser dessus ouais, entre nous juste derrière de ça vient de l'intérieur et ça transparaît à travers nous parce que c'est si important pour nous sur des sujets. Et je sais que tous les deux on se retrouve sur ça, sur l'envie de servir pleinement une communauté et les personnes qu'on a envie d'aider. Et en même temps, je pense qu'il y a une réflexion qui est cool à avoir en complément de ça, c'est comment j'oriente cette volonté de service et de contribution dans une direction qui soit avantageuse pour tout le monde, avec à la fois des effets de levier pour soi, mais aussi des effets de levier pour les autres, parce que ça devient des outils qui nous permettent d'avoir plus d'impact et plus de service avec le temps.
Ouais. Et il y a un truc que j'aimerais te partager et que je pense que tu as conscientisé aussi toi pour ton activité d'indépendant, mais c'est, moi je vois vraiment ça comme un peu une activité à plusieurs vitesses. Tu vas avoir souvent une première vitesse qui est je vends mon temps contre de l'argent, qui est un bon premier pas et qui permet vraiment de mettre un pied dans la porte, d'enfoncer un premier truc et de pouvoir commencer à vivre de ton activité. Et en fait, je trouve ça super intéressant que même quelqu'un qui a cette première vitesse-là puisse réfléchir à la deuxième, à la troisième qui est est-ce que tu commences à développer des atouts, des choses sur lesquelles tu veux parler, tu veux t'exprimer, tu veux communiquer, tu veux fédérer, moi c'est un mot qui est important pour moi aussi, et qui vont t'amener à cette deuxième vitesse où tu vas pouvoir proposer des choses aussi aux gens que tu as fédérés pour les aider, pour avancer, pour qu'ils puissent se sentir encore plus épanouis dans eux ce qu'ils font. Et c'est un truc, je pense, qui est intéressant à imaginer même dès le début, sans que tu sois déjà dans 100% de ton temps vers cette deuxième vitesse ou cette troisième vitesse.
Ouais. Ouais, grave. Et de se dire, tu vois, il y a une discussion qu'on avait avec Ben Hyssen dans le premier épisode de cette saison où il parlait de cette transition d'un modèle consulting individuel, entre guillemets, vers des modèles sur l'éducation et le partage de savoir. Et je pense que c'est trop cool de se dire, dans cette première phase où, entre guillemets, je vends mon temps et mes compétences, de documenter aussi qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je développe comme compétences, pour le remettre au service d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu accès dans le consulting. C'est ce que j'ai l'impression, on a tous les deux fait avec notre podcast. Finalement, c'est packager du savoir qu'on a envie de partager et qu'on trouve important pour que ça puisse servir le plus grand nombre. Et en plus, qu'il y ait des avantages en termes de temps passé là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand on me pose une question sur tel ou tel sujet, bah, la première chose que je vais faire, c'est dire « Ah tiens, est-ce que tu as écouté cet épisode de podcast ?» Parce que c'est une heure qui creuse le sujet et que ça pourra t'aider au niveau de ta demande. Et en même temps, moi, du coup, je ne repasse pas une heure à expliquer le truc. Et je pense qu'il y a plein d'évolutions de ça, dont une forme sur laquelle on a tous les deux atterri, dont je voulais pas mal parler aujourd'hui, qui est la forme de la communauté. Les communautés où on rassemble les personnes qu'on fédère, comme tu disais. Et du coup, ça nous permet de diffuser et de partager des choses à plusieurs personnes en même temps et donc de passer à cette deuxième ou troisième vitesse également. Et du coup, je suis curieux de ta réflexion sur ça à toi. C'est quoi qui t'a apporté à ce moment de te dire « Ok, maintenant, j'ai le podcast, d'autres contenus qui partagent des choses. » Pourquoi t'as voulu avancer sur cette phase de « Ok, ben maintenant, on va regrouper toutes ces personnes ensemble et les faire échanger entre elles et créer cette communauté qui est le cercle des créateurs. » Et d'ailleurs, je serais curieux de ta définition à toi de communauté aussi, tant qu'on est dessus.
Ouais, et bien je vais te dire une chose, Thomas. Pour moi, les communautés, c'est quelque chose qui est absolument fascinant. Je trouve que c'est fou de pouvoir se dire que tous ensemble, rassemblés, pas forcément par des connaissances communes ou des choses communes dans la vraie vie, on arrive tous, grâce à un sujet, à se rassembler ensemble pour faire quelque chose où on va se bouger, se développer, grandir et évoluer ensemble. Ça, c'est un truc que je trouve absolument magnifique dans les communautés et que je trouve ultra positif par rapport à l'apprentissage en ligne qu'on a eu il y a une vingtaine d'années ou il y a une dizaine d'années, où chacun était très isolé dans son coin et où là, en fait, on se rend compte que l'aspect communautaire et les rencontres et les échanges qu'on a apportent une nouvelle dimension à l'apprentissage que moi, je trouve fascinante. Le deuxième truc que je voudrais te dire, c'est que faire une communauté, ça va pas forcément de soi. C'est-à-dire que je pense qu'on a une mode aujourd'hui des communautés avec beaucoup de gens qui essayent de lancer des communautés, mais je pense qu'il y a une réflexion profonde à avoir sur pourquoi tu fais une communauté et dans quel but. Parce que si tu le fais juste par effet de mode et te dire « Ok, ben super, ça marche bien, tout le monde fait des communautés, on va faire ça, c'est cool. » Mais finalement, tu t'intéresses pas vraiment à qu'est-ce qui, en tant qu'être humain, nous rassemble, pourquoi on a envie d'être connecté, pourquoi on a envie de se fédérer. Et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier non plus, parce que sinon, tu risques de te mettre à côté de la plaque et de faire des choses un peu moyennes, en tout cas, qui aident pas vraiment les gens qui font partie de cette communauté. Donc ça, c'est un truc qui est important pour moi. Je pense que dans mon cas, je suis allé vers les communautés, je suis allé vers le cercle des créateurs que j'ai lancé par croisement entre ma façon de fonctionner à moi, où je sens que j'ai quelque chose d'un peu solaire, d'un peu de bonne humeur, d'assez humain qui permet de rassembler les gens, mais aussi parce que je sentais que c'était un excellent moyen d'aider les personnes que je voulais aider. Et en fait, je trouve que quand tu as ce croisement-là, c'est un peu l'alignement des planètes entre toi, ton fonctionnement et ce que les gens en face ont besoin, et ben c'est là qu'il se passe quelque chose de vraiment fort. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec le cercle, et je suis content de l'avoir fait sous ce format-là, parce que ça permet, à travers la rencontre, à travers l'entourage, de créer une, pour les créateurs, en tout cas dans mon cas, une vraie dynamique, une source d'inspiration, une source d'émulation, une source de découverte aussi commune et de responsabilité les uns des autres, qui est super forte. Je sais pas comment tu le vis toi avec Inside Freelancing, mais on vit dans des métiers qui sont assez isolés la plupart du temps. Et tu vois, c'est pas avec notre compagne, notre compagnon, notre mari, notre femme, notre bref, whatever, les gens qui partagent notre vie, nos amis, c'est pas avec eux qu'on va pouvoir partager les problèmes qu'on a tous les jours dans notre quotidien. Donc, on est assez isolés. Et avoir ces endroits-là où on peut avoir cette infusion de pensée, d'énergie, de motivation, de réflexion, même de connaissances qui te permettent de te dépasser, moi, je trouve ça absolument fabuleux.
Il y a plein de choses dans ce que tu dis là que j'ai envie de unpack et aller explorer quelques petits points, parce que tu as dit plein de choses, mais je voulais déjà attraper ce que tu dis sur la partie pédagogique, formation, apprentissage et tout. Je trouve ça fascinant ce qui se passe depuis les dernières années sur Internet, avec une grande phase de structuration du savoir et du partage de connaissances qui auparavant était un peu éparse dans plein d'endroits différents, et le fait qu'il y ait de plus en plus de formations et de processus pédagogiques qui naissent sur Internet, je trouve ça fascinant et vraiment important. Et en même temps, je trouve que cette dimension communautaire dont tu parles et qui m'est moi aussi super chère, et c'est pour ça que j'ai voulu moi aussi suivre ce mouvement de l'espace communautaire avec Inside Freelancing, en fait, c'est que il y a plein de choses qui se passent dans l'interaction, où c'est pas forcément structuré, mais le fait d'être face à un autre être humain qui a une expérience à la fois proche de la tienne et en même temps radicalement différente, parce que chaque être humain expérimente la vie d'une manière complètement différente, ça fait faire des déblocages qui, à mon sens, n'existent pas quand t'es seul face à une vidéo ou seul dans ton référentiel face à une acquisition de savoir. Du coup, je trouve les deux vitesses, elles sont hyper importantes pour développer des compétences, avancer dans des projets, enfin voilà, toutes les choses que nous et les membres de nos communautés respectives vivent au quotidien, quoi.
Ouais, complètement. Et je pense que c'est un message que j'ai aussi pour les gens qui écoutent le podcast et pour tous les indépendants qui sont à leur compte et qui ont envie de grandir. Souvent, on se dit, la communauté, c'est peut-être une prochaine étape, ça va venir, etc. La vérité, c'est que je peux que encourager chacun à son niveau qui nous écoute là à se dire, mais une communauté, ça peut commencer dès demain. Ça n'a pas besoin d'être un truc compliqué. Je pense que Inside et le cercle des créateurs, c'est des choses sur lesquelles on a assez poussé les choses. Donc, ça commence à être des communautés très structurées. Mais il y a des manières hyper simples de faire des communautés qui sont hyper fortes. Moi, le meilleur exemple et le plus simple que j'ai, c'est une conversation avec 2-3 personnes ou même une conversation privée sur Instagram. C'est déjà une communauté. C'est un échange entre êtres humains. C'est une conversation, c'est une discussion qui amène les gens à avancer et à se challenger, à se confronter, à voir différentes choses que leur propre réalité du monde. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Donc, il faut surtout pas le négliger. Si vous commencez à partager ne serait-ce que vos aventures sur quelque part, sur un réseau ou autre, et que vous cherchez à aider certaines personnes, à les servir, à vous mettre à leur service, c'est la base d'une communauté. Ça peut être pour 3 personnes ou pour 3 000, c'est déjà une communauté. Et c'est pas trop tôt pour commencer.
Ah, c'est intéressant. Parce que je suis curieux qu'on creuse un peu ça. Parce que moi, j'avais une réflexion dans mon processus de création de Inside, qui effectivement a été peut-être un peu plus poussé. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir au truc. Mais une des choses que j'avais rencontrées, c'était de me dire, en fait, tout le monde parle de communauté. C'est un truc hyper large, on entend ça depuis des mois, des années, il faut créer une communauté. Et il y a plein de formes qui sont nées de ça, notamment une flopée de groupes Facebook, en veux-tu, en voilà, sur plein de sujets. Et en fait, quand je faisais toutes mes recherches sur, c'est quoi un peu les fondements d'un mouvement communautaire, ben, je me suis rendu compte que pas mal de ces groupes Facebook, en fait, c'était pas vraiment ce que moi, je pensais entendre par le mot « communauté », où voilà, on se réunit dans un groupe, les gens se connaissent pas trop, des fois on poste, on nous demande de faire ci, et il y avait un peu un effet réunion networking où t'es seul dans ton coin avec ta bière, et pourtant on te dit tu fais partie d'une communauté, tu vois. Et du coup, je suis curieux de ta réflexion sur, déjà, c'est quoi ta définition de si tu devais créer un dictionnaire by Kylian Talin avec le mot communauté à l'intérieur, t'écrirais quoi derrière? Et aussi, c'est quoi un peu les fondations de ce que t'entends par une vraie communauté? Et du coup, j'ai l'impression que, enfin voilà, ça va être intéressant de creuser ça parce qu'il n'y a pas forcément de définition en termes de nombre de personnes. Comme tu le dis si bien, une communauté, ça commence à 3 personnes, on est déjà une communauté. Ou je pense aussi à la communauté de l'anneau. Je suis dans une phase Tolkien, Seigneur des Anneaux à fond, et ils sont pas nombreux dans la communauté de l'anneau, mais c'est une communauté quand même.
C'est vrai. C'est clair. C'est une très très belle communauté. Je vais essayer de te partager plusieurs morceaux qui font pour moi, une communauté. Une communauté, c'est la meilleure image qu'on peut avoir, c'est une maison. C'est une maison dans laquelle il y a des personnes qui vivent en commun. Donc, le premier point d'une communauté, pour moi, c'est faire en sorte que des gens qui sont au début étrangers deviennent des gens qui sont familiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et pour moi, c'est un élément qui est super important, qui différencie une audience d'une communauté, c'est que non seulement il va y avoir des échanges entre l'hôte, l'opérateur, l'animateur, le responsable et ses membres, mais surtout, et c'est ça qui fait une communauté, entre les membres eux-mêmes. C'est-à-dire que si t'envoies un message privé à quelqu'un, vous êtes dans une discussion qui est bilatérale. une personne qui te répond. Si par contre, tu es sur un groupe WhatsApp, que tu envoies un message et que les personnes commencent à répondre et échanger entre eux sur ton message, là, il y a des discussions qui sont multilatérales. Et c'est donc ce moment-là où il commence à y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la communauté. Après, un truc un troisième point qui me fait beaucoup réfléchir, moi, c'est ce que j'appelle les différents niveaux d'une communauté. Et sur ça, ce que j'encourage chacun à aller, c'est d'une situation où petit à petit, on va pouvoir donner de plus en plus de pouvoir aux membres qui composent la communauté. C'est-à-dire qu'au début, si tu arrives dans une maison, tu peux dire aux gens, bienvenue dans la maison, débrouillez-vous. Ça, c'est le niveau 1. Tu peux avoir un deuxième truc qui est bienvenue dans la maison, voici les activités qui sont proposées. Ça, c'est le niveau 2. Tu vas avoir un troisième niveau où tu peux encourager les gens à prendre des initiatives. Donc, par exemple, tu vas leur dire, voilà le fonctionnement de la maison, voici les règles qu'on a, voici comment ça se passe et voici ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est le niveau 3. Et quand tu arrives à avoir ce niveau-là de communauté, c'est à la fois le moment où tu as donné un maximum de pouvoir aux gens qui composent ta maison, ta communauté, mais aussi, c'est ce qui amène plein d'initiatives qui ne sont plus de ton seul fait. Et quand je te parlais tout à l'heure de discussion bilatérale versus multilatérale entre les gens, pour moi, une vraie communauté, c'est ce moment-là. Tu as donné suffisamment de pouvoir aux gens pour qu'ils proposent des initiatives eux-mêmes et qu'ils puissent vivre quelque chose de fort entre eux grâce au cadre que tu as mis en place. Donc toi, tu mets les murs de la maison, t'expliques comment ça fonctionne, tu donnes du pouvoir aux gens et derrière, il y a des vraies relations qui se créent entre eux et les gens sont plus des étrangers.
Je suis à 100% aligné avec tout ce que tu as raconté. Moi aussi, j'avais beaucoup eu cette réflexion des échanges avec ma communauté parce que, comme tu le sais, au moment où moi, j'ai commencé à réfléchir à Inside, en fait, j'avais énormément d'interactions sur plein de différents réseaux avec les personnes qui suivaient le podcast, la newsletter, etc. Mais ils interagissaient pas tant entre eux. Et la première fois que j'avais commencé à essayer de passer à ces prochains niveaux d'interaction, pas unilatérale, mais entre eux, j'avais fait un apéro pour le podcast dans un bar à Paris, à l'ancienne grande belle époque. Et ça avait commencé par ça et je m'étais dit, putain, c'est trop bien de voir tout le monde échanger et que moi, je m'efface un peu de l'équation. Et je pense que, tu vois, c'est une bonne quête de se dire une communauté, c'est l'endroit où l'instigateur s'efface presque des interactions et où il y a de la valeur qui est créée entre les membres sans forcément que tu aies besoin d'interagir et d'intégrer, même si bien sûr, j'ai encore un rôle assez présent dans Inside où j'essaye d'apporter un max de ce que je peux partager et apporter. Mais c'est clair qu'il y a plein de choses que les membres s'apportent entre eux. Et c'est comme tu dis, ce niveau 3 là où il y a des initiatives qui se font et les personnes prennent de plus en plus un rôle de en fait c'est ma communauté tout autant que celle de Thomas et du coup on la co-construit en fait et je me dis c'est ça la vraie puissance quoi et c'est pas juste voilà un outil faites comme chez vous comme un groupe Facebook.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Je mettrais une légère nuance. C'est que pour moi, c'est une addition de pouvoir. C'est-à-dire que c'est ton pouvoir qui s'additionne avec celui des autres qui montent. Et donc, ça fait une communauté qui est encore plus vertueuse. Mais c'est pas toi qui abandonne ton pouvoir parce que pour moi, l'autre a une vraie responsabilité. Et un autre qui oublie son pouvoir, c'est quelqu'un qui va laisser partir à volo. C'est l'apéro de chill où personne sait ce qu'il doit faire. Donc, tu as un vrai pouvoir de connecter, transmettre, organiser, créer le cadre, recadrer quand il faut. C'est pas un abandon de ton pouvoir, mais c'est comment t'en donnes plus aux autres pour qu'effectivement ils deviennent tes pairs et que tous ensemble vous construisez un truc encore plus vertueux. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec le cercle. Et c'est des trucs que j'avais beaucoup vu aussi. Je sais pas si tu avais lu un livre qui s'appelle The Art of Gathering d'une fille qui s'appelle Priya Parker.
Tu m'en avais pas mal parlé.
Ouais, très intéressant. Et il y a vraiment cette logique-là de pouvoir, mais pas de. Faut pas que tu sois le chill host, tu vois. Genre qui dit. Ouais, bienvenue à cette soirée, c'est cool, soyez chill et tout. C'est pas ça, c'est plus bienvenue à cette soirée, voilà ce qui va se passer et ensuite prenez cette liberté. Et ça permet de créer un cadre et dans ce cadre, d'amener à explorer, d'amener à ce que chacun puisse explorer.
Ouais, carrément. Et ça crée une sorte de système vertueux en plus où, et moi c'est ce que j'essaye d'apporter, surtout sur la partie pédagogique, que il n'y a pas une personne qui détient la vérité, mais tous ensemble, avec nos expériences communes, si on centralise tout ça autour d'une thématique ou d'un sujet, on s'approche de plus en plus d'une forme de vérité entre guillemets, même si on ne sait pas vraiment si ça existe, la vérité universelle. Mais en tout cas, avec tous ces petits morceaux du miroir qu'on a tous, bah, assemblés ensemble, ça fait un truc qui a plus de sens. Et tu vois, pour donner corps à tout ce qu'on dit là, je serais curieux de, peut-être on peut jouer à ce jeu ensemble. Si on devait poser les fondations pour quelqu'un qui se dit, ben moi j'ai envie de rassembler une communauté autour de tel sujet ou tel sujet, et peut-être suivre ce modèle qu'on a entrepris tous les deux de la communauté payante qui fait partie aujourd'hui de nos business models respectifs. Tu dirais que c'est quoi les, tu vois, si on synthétise les outils, les apprentissages, les fondations pour construire une communauté avec cette volonté-là, tu dirais que c'est quoi toi qui fait la différence?
Alors moi, il y a deux fondations qui sont centrales, qui sont très théoriques, mais qui sont très essentielles, et je pense que tout le monde s'en rendra compte en le faisant. C'est une bonne communauté, c'est d'abord une raison d'être. C'est très simple, et c'est très bateau, ça fait très bullshit théorique d'école de commerce, mais c'est véridique. Il faut que tu aies une raison de rassembler les gens. Les gens, ouais. quand ils ont fait les premiers villages en tant qu'Homo sapiens, il y a quelques temps, longtemps maintenant, quelques années déjà, et ben il y avait une vraie raison d'être, tu vois, c'est rassembler les gens pour structurer une organisation, etc. C'est la même chose pour vous. Tout rassemblement, il part d'une raison d'être. Pourquoi vous rassemblez les gens? Pourquoi votre communauté? Pourquoi votre communauté plutôt qu'une autre? Il y a toute cette réflexion à avoir sur l'unicité que vous avez envie d'apporter et autour de quoi vous avez envie de fédérer. Et d'ailleurs, plus cette raison d'être est forte, plus le rassemblement et le côté fédérateur est puissant.
Ouais.
Si demain on décide de, tu vois, c'est le principe d'une manifestation. Pourquoi ça prend feu d'un coup? C'est parce qu'il y a quelque chose qui touche aux tripes des gens et donc tout le monde se rassemble et se fédère pour le faire et ça arrive en une semaine. Tu vois. Moi, une phrase que j'aime bien, c'est les Beatles n'ont pas créé les adolescents, mais ils les ont fédérés. Et tu vois, c'est ça qui est assez puissant, c'est que par ce qu'ils ont fait, par leur art, par leur création, ils ont permis aux gens de se dire, les adolescents, waouh, en fait, c'est ici qu'on doit être et donc on se fédère autour de ça. Donc il y a une vraie raison d'être à mettre en place. Et le deuxième truc que moi j'aime bien penser, c'est une vraie réflexion sur l'exclusion. Si tu réfléchis à une raison d'être, tu réfléchis aussi à pour qui c'est fait et pour qui c'est pas fait. Ouais. Moi, dans le cercle, ça fonctionne par candidature. Donc, les gens, au moment de l'ouverture des portes, chaque fois, tous les 6 mois, j'ouvre les portes. Les gens candidatent et je prends le temps de discuter avec tout le monde au téléphone. C'est une manière pour moi de vérifier. Et dans 95% des cas, ça colle, ça fonctionne. Les gens ont compris, c'est top. Mais j'ai eu quelques cas où j'ai dit aux gens, je pense que c'est pas le meilleur endroit pour toi, pour t'épanouir. Je pense que peut-être que quelque chose plus entrepreneur, entre guillemets, Startup Nation, tu vois, levée de fonds, etc., ce serait plus pour toi. Dans le cercle, on est plus, on a d'autres valeurs, on a vraiment une logique de création de contenu, etc. Et c'est pas forcément pour toi. Et je pense que c'est important aussi de réfléchir à se dire, ben voilà, Thomas, je pense que tu le fais aussi toi pour Inside, pour qui c'est, pour qui c'est pas. Tu vas pas aider, tu vas pas aider n'importe qui non plus, quoi.
Ouais, grave. Et je pense que ouais, c'est hyper important pour l'aspect fédération qui va avec. Moi, quand je réfléchis à ce sujet notamment de raison d'être. En gros, le petit modèle que j'ai, c'est quoi notre destination commune? C'est quoi nos responsabilités individuelles pour construire ça? Et que, en gros, du coup, on les porte au travers de la communauté. Et c'est quoi aussi nos symboles et nos signes de reconnaissance? Comment on fait pour reconnaître d'autres personnes qui font partie du même mouvement? Ce qui veut dire qu'il faut aussi reconnaître les gens qui, entre guillemets, n'en font pas partie ou pour qui c'est pas le bon cadre pour avancer vers là. Et c'est vrai que c'est une vraie réflexion à avoir, mais qui est pas évidente. Et ça fait un bon lien avec un autre truc dont je voulais parler avec toi qui est la forme de la communauté. En fait, j'ai l'impression que c'est pas non plus pour tout le monde. Moi, j'ai une objection récurrente pour les personnes qui viennent, qui expérimentent et qui me disent et qui ensuite repartent et se désinscrivent de la communauté, qui me disent c'est trop cool, il y a plein de choses, plein de valeurs, machin, mais ça prend beaucoup trop de temps. Et je suis curieux de toi comment tu vis ça aussi et si c'est le cas. Parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se disent, il y a tellement de choses qui sont partagées, il y a tellement de personnes et tout, c'est trop, entre guillemets, et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans ce truc-là. Donc, je suis curieux de toi, si c'est le cas aussi, et qu'on ait une petite interaction, une petite discussion sur ça, parce que je pense que c'est un vrai sujet sur ce modèle de la communauté.
Ouais, à fond, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis en train d'écrire un article en ce moment sur ce truc-là, justement, que j'appelle, moi, le paradoxe de l'entourage. Le paradoxe de l'entourage, c'est une réflexion qui est plus tu passes de temps avec les autres, moins tu passes de temps sur ton activité. Mais plus tu passes du temps avec les autres, plus ton activité accélère vite. Je le résumerai comme ça. Et c'est une vraie réflexion parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas quelque chose que tout le monde a assimilé jusque-là. T'as des gens qui considèrent que avoir des interactions avec les autres, c'est une perte de temps. Alors, je te parle pas d'introversion, extraversion. Hein. Je pense qu'on peut faire partie d'une communauté et être très introverti. Moi, j'ai plutôt un profil introverti, même si je suis capable d'être extraverti aussi. Donc, c'est pas ça. C'est vraiment une réflexion sur comprendre que finalement, c'est cette phrase, tu vois, c'est que tous ensemble, on avance plus loin, quoi. Et je pense que tout le monde ne l'a pas assimilé parce que ça dépend de tes expériences de vie, de ce que tu as eu comme opinion, comme éducation, comme culture, voilà, toutes ces choses qui te mettent dans la réalité du monde que tu as aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec toi. Si tu n'as pas assimilé ce fait-là, que l'entourage peut vraiment t'aider à te porter plus loin en te confrontant, en étant une source d'éclairage, en étant une source d'inspiration, en alimentant tes pratiques, ça peut être dur de se projeter là-dedans. Quelqu'un qui, par contre, a fait ce mouvement, c'est magique. Je pense qu'on on le voit tous les deux avec notre amitié, les gens qui nous entourent. On le voit tous les deux avec nos communautés. On le voit tous les deux avec... mais même, hein, tu as des exemples très célèbres de petits groupes de personnes qui se sont rassemblées, le club des Hachichins, les Sinus. Voilà, il y a plein de choses qui sont super intéressantes à ce niveau-là. Tolkien aussi, je crois, faisait partie d'initiatives comme ça.
Deux initiatives comme ça, complètement, complètement. Une première quand il était plus jeune et ensuite un autre groupe... je sais plus comment il s'appelait, mais il y avait notamment C.S. Lewis, qui est l'auteur de Narnia, où ils étaient très potes, ils s'échangeaient sur leurs écrits, ils confrontaient leurs univers, et ça a été fondateur pour les deux, ces échanges-là.
Ouais. Et puis, t'as des trucs qui ont été ultra théorisés. Je sais pas si tu sais d'où vient le mot mastermind, mais de mémoire, c'est un gars qui s'appelle Napoleon Hill, qui a étudié, donc les, bon, là, c'est une autre époque, hein, je dis pas que, moi, je suis pas fan du CAC 40 et compagnie, mais il avait étudié tous les Fortune 500, les gros dirigeants des grosses boîtes américaines au 19, 20e siècle, je sais plus quelle époque c'était, 19 ou 20e. Et il s'était rendu compte qu'en fait, tous ces gens-là réussissaient parce qu'ils s'entouraient bien des autres de ce même milieu-là.
Ouais.
Et donc, que ça créait des partages d'informations, que ça créait des stimulations, que ça créait des inspirations, que ça créait tout un cadre qui te permettait de t'émanciper et d'aller plus loin que juste toi, ta compréhension du monde.
Ouais,
en fait, c'est ça que je trouve le plus magique. Moi, je pense que la vraie transformation des communautés, elle se fait d'un point de vue identitaire. C'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'en te regroupant avec d'autres, t'es plus une anomalie parmi d'autres, mais que t'es une personne normale de cette nouvelle norme, ton identité, elle change et c'est incroyable ce qui se passe.
Ouais, de dingue. Ça me fait penser, il s'est passé un truc dans Inside Freelancing, il y a un événement récurrent qu'on fait tous les mois qui est un mois de sorte de un événement de bilan du mois passé, préparation du mois suivant, qu'on appelle les meet-up mensuels. Et il s'est passé un truc dans un des meet-up là, je pense que c'était au printemps de cette année 2021, où il y a quelqu'un, on parlait de dans notre enfance, le fait que parfois on avait l'impression d'être l'enfant bizarre, tu vois. Et il y a quelqu'un qui avait écrit ça dans le chat, et après il y a quelqu'un d'autre qui a réagi, putain, moi aussi, puis quelqu'un d'autre, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et du coup, après, j'ai posé la question à l'oral de genre, pour qui c'était le cas? Vous aviez l'impression d'être l'enfant ou le jeune bizarre qui n'arrivait pas trop à s'intégrer dans la norme des groupes, dans le collège, lycée, etc. 80% des personnes dans la pièce ont levé la main. Et je me suis dit, waouh, c'est ouf. C'est genre, on est tous les gens bizarres, tu vois, qui se sont réunis. Et je me dis, putain, c'est fou parce que du coup, ces personnes-là ne se sentent plus les gens bizarres, mais effectivement, comme tu le dis super bien là, c'est on est la nouvelle norme, quoi. On se retrouve entre gens bizarres et donc on est plus bizarre parce que on est pareil.
Je suis entièrement d'accord. Mais oui, c'est pas une évidence et c'est pas une évidence pour tout le monde et c'est pas une ce qui est pas immuable non plus. Hein. Tu peux être un instant T de ta vie où tu comprends pas ce truc là et un autre moment où dans 10 ans peut-être que tu te diras putain là je comprends la magie que ça peut apporter.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir envie de s'investir. Et en fait, grâce à cet investissement, tu récupères des choses qui sont incroyablement puissantes.
Ouais, c'est clair.
Moi, je me dis souvent, les gens payent une adhésion à nos communautés, en l'occurrence. Et en fait, le retour sur investissement de cette adhésion, il peut venir de plein d'endroits complètement inattendus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une discussion à un moment, par écrit ou par oral, avec quelqu'un qui va te faire accélérer x10 parce qu'il va te complètement changer le rail du train sur lequel tu étais.
Sur lequel tu es, ouais.
Et en fait, tu vas aller à gauche au lieu d'aller tout droit. Et en allant à gauche, tu vas vivre des choses où ton activité va accélérer x10. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est l'entourage et la force de l'entourage, c'est que c'est une perpétuelle remise sur les rails qui te permet de recadrer ton activité et d'aller recadrer dans le bon sens, hein, mais qui te permet d'aller encore plus loin, quoi. et d'aller encore plus vite. Et c'est là où je trouve ça incroyable.
C'est clair. Et c'est super important ce que tu as dit là, à mon sens, parce que tu vois, on peut être convaincu que l'entourage, c'est hyper important, ça fait la différence et ainsi de suite. Et en même temps, je pense qu'on est soumis à une espèce de boulimie de on veut tout prendre, tu vois. Et moi, c'est ce que je vois le plus dans les personnes qui rejoignent la communauté, sont convaincues, mais repartent. En gros, ce que j'ai l'impression de voir dans leur message, parce qu'à chaque fois, on demande un feedback, c'est il y a trop de choses et j'arrive pas à tout suivre. Et qu'en fait, du coup, il y a ce désir de tout suivre. Alors que ce que tu viens de dire là, c'est hyper essentiel. C'est, en fait, c'est pas forcément en suivant tout que tu vas avoir le meilleur rapport. Des fois, c'est une conversation où effectivement, tu vas avoir une remise sur les rails dans un autre sens ou une opportunité qui va venir de là. Peut-être tu vas bosser avec la personne sur un projet et ce sera peut-être le plus gros projet que t'aies fait dans ton activité jusqu'alors. Peut-être que vous allez co-construire un truc qui va super bien marcher. Tu vas trouver ton partenaire pour créer quelque chose. Ou peut-être que c'est un événement où tu vas avoir une prise de conscience dingue. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi de se déculpabiliser sur, en fait, tu peux pas tout consommer, quoi qu'il arrive, que tu sois dans une communauté ou ailleurs, parce que bah, quand t'es pas dans un espace communautaire, en fait, c'est l'immensité de tout le contenu internet que tu peux pas consommer, c'est impossible. Et je pense que les gens se mettent une énorme pression sur ça, tu vois. Genre, je rentre dans le cercle, ou je rentre dans Inside Freelancing, et donc, parce que j'ai payé, il faut absolument que je consomme tout. Alors que c'est pas là où la vraie valeur se trouve. La vraie valeur, comme tu l'as dit, elle se trouve dans... peut-être tu vas avoir une conversation à un moment donné ou un autre truc, mais sur lequel t'es vraiment 100% présent et pas en train de te dire « Ah, il faut que je parte parce qu'il y a un autre truc après, il faut que j'aille lire ce truc-là que j'ai pas encore lu. » Et je pense que là, il y a un vrai enjeu aussi, déjà pour nous, avec notre responsabilité en tant que créateur de communauté, mais aussi individuel, de se dire « Ok, faut que je choisisse et que je sois... ouais, que je conscientise les décisions de où j'investis mon temps et mon attention et pas forcément que je me mette la pression de tout manger, tout consommer.
Ouais, complètement d'accord. Et tu sais, il y a une contradiction, ce que tu dis, ça me fait penser, il y a souvent une contradiction chez les personnes qui sont la différence entre vouloir changer et agir pour changer. Tu sais, souvent, ce qu'on voit et ce qu'on projette sur le changement, on se dit « Waouh, c'est génial, j'ai envie de faire ça ». Et ensuite, c'est très dur dans les faits de se dire « je fais les efforts et les difficultés et les épreuves pour que ça change ». Pour moi, c'est pareil pour les communautés. C'est que il y a des gens qui veulent l'entourage, il y a des gens qui agissent pour s'investir dans cet entourage-là. Et c'est trop cool de se dire « l'entourage, c'est top », mais c'est une autre chose de se dire « je m'investis dans cet entourage parce que je me rends compte que ça va apporter des changements incroyables en moi ». Et je pense qu'on a ce rôle-là, et c'est un rôle que vous avez tous, si vous nous écoutez, et que vous créez des micro-communautés, que ce soit un groupe WhatsApp, un message privé, une conversation, whatever, c'est de se dire comment t'agis pour que les gens, tu les encourages à s'investir dans cet entourage et que ce soit pas juste une façade. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ne plus être des étrangers dans la maison. On est des gens qui se connaissent.
Ouais.
Et qui se repèrent. Ouais. Et qui sont, ce que tu disais, people like us do things like this. Les gens comme nous font des choses comme ça. Et c'est important.
Ouais, grave. Et c'est marrant, quand t'as dit groupe WhatsApp, ça m'a fait penser au fait que, tu vois, j'ai participé à un séminaire avec Tony Robbins en début d'année, là. Et j'étais dans, en gros, il y a plein de groupes et on était tous dans des salles sur Zoom. Et moi, j'étais dans le groupe numéro 9. Et en gros, suite au séminaire, ils ont créé un groupe Facebook et un Telegram pour tous les gens qui étaient dans le groupe numéro 9. Et jusqu'à ce jour, du coup, ça fait, je sais pas, 3, 4, 5 mois depuis, ils sont encore en train d'interagir, ils font des Zooms toutes les semaines. Et il y a différentes personnes qui prennent le lead pour co-organiser et co-gérer le truc, juste en mode, on a vécu une expérience de dingue, continuons d'avancer ensemble. Et je me dis, putain, c'est ouf que ça se soit autant structuré et accompagné. Moi, du coup, j'ai pas du tout suivi le mouvement parce que j'avais déjà des interactions dans d'autres sens et du coup, j'étais pas en mode, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais c'est dingue de se dire, ça peut partir d'un tout petit truc, tu vois. Et que ça peut continuer de cheminer. Et je sais que c'est le cas avec, pareil, je voyais sur Insta les membres d'une formation de Alex Viséo et je l'ai vu avec les membres de ma formation qui étaient dans un groupe de responsabilité ensemble, qui partent ensuite en vacances ensemble et qui continuent d'avancer. Et ouais, c'est fou le cheminement que ça fait par la suite où on crée des liens super forts avec une sorte de sécurité émotionnelle aussi qui vient du fait de vivre des expériences fortes ensemble. Et c'est dingue ce qui peut se passer derrière, quoi.
C'est clair. Je pense que tu dis un point aussi qui est très important, si on veut finir un peu le tour de ce qu'on disait tout à l'heure sur les éléments fondateurs. Il y a aussi ce truc de comment faire vivre une expérience exceptionnelle aux gens qui sont présents. Et ça c'est un truc qui est vraiment très important, parce que c'est ça qui permet aussi de créer le socle commun de on avance ensemble. Et pourquoi si on reprend l'exemple des Beatles, pourquoi les adolescents ont été fans? C'est parce que tu vivais une expérience, une ferveur, que ce soit sur leur concert ou quand t'écoutais une chanson dans un bar où ils passaient, où tu te dis bah waouh, je fais partie d'un truc quoi. Et ça c'est porteur. Ça amène vers la destination commune que t'évoquais.
Ouais, grave. Et je pense, t'as mentionné ça rapidement tout à l'heure, mais moi je le rajouterais aussi dans les éléments fondateurs qui sont hyper importants. Tu parlais des valeurs que vous défendez dans le cercle qui sont différentes que dans d'autres endroits où on peut être plus dans une direction. Startup Nation, t'as utilisé le terme, ça me parle aussi. mais je pense que c'est aussi important de prendre le temps de vraiment conscientiser ça aussi et de se dire autour de quelles valeurs fondamentales est-ce qu'on se regroupe et qu'est-ce qui est au centre du fonctionnement de ce mouvement communautaire. Et c'est quoi un peu les règles de conduite, parce que du coup les valeurs c'est ce qui agit sur nos comportements. Donc si on revient au fondement des valeurs, je pense que c'est hyper important de le poser aussi noir sur blanc pour que tout le monde soit clair, et donc que ça serve aussi l'exclusion dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas se reconnaître là-dedans et qui du coup se diront ok, ça c'est pas pour moi, et c'est fine.
Ouais, c'est clair. Moi je le vois à fond dans le cercle, hein. Ça m'est arrivé de refuser des gens parce que je sentais que d'un point de vue de valeur c'était pas pour eux. Moi j'ai envie que ce soit des gens qui aient une forme de générosité, une forme de bienveillance. C'est un mot qui est vraiment important, même s'il est beaucoup galvaudé aujourd'hui, qui partagent une vraie volonté de s'intéresser aux autres et de donner pour recevoir ensuite. Et en fait, quand tu sens pas ça chez ces personnes-là, je pense que c'est bien aussi de dire ben je suis pas sûr que c'est l'endroit où tu vas t'épanouir, et tout le monde s'en porte mieux derrière. Oui, tu passes à côté de quelqu'un, mais c'est ça qui permet aussi de créer un socle commun fort.
Ouais. Et je serais curieux qu'on atterrisse maintenant, parce que là, on a pas mal parlé de l'intention, la structuration, les fondements de ce qu'on voit être ce genre de mouvement. Mais je serais curieux qu'on arrive pour les gens qui se disent « Ah tiens, ça me parle et j'adore cette forme-là de la communauté privée finalement, ou la communauté sur abonnement, que ce soit quelque chose de payant comme nous on a fait. » Déjà, moi, peut-être donner un mot sur pourquoi est-ce qu'on juge qu'une communauté sur cette forme de manière payante, c'est au service de nous le créateur, mais aussi des autres personnes. Ça, je trouve que ce serait un sujet intéressant, mais qu'on parle plus globalement du modèle économique et comment ça s'intègre dans nos business respectifs pour d'autres personnes qui se diraient « Tiens, ça m'intéresse, je réfléchis à ça aussi pour mon activité. » quoi.
Ouais, complètement. La première réflexion, c'est qu'une communauté, ça peut être gratuit ou ça peut être payant. Et tu peux même avoir les deux qui rayonnent en parallèle. Hein. Il y a des gens qui ont une super communauté gratuite, mais qui amènent quelque chose en plus avec une communauté payante. Moi, dans mon cas, j'ai fait le choix de la communauté payante parce que je trouvais ça vraiment vertueux comme modèle par rapport à ce que je voulais proposer, avec une vraie logique que les gens puissent apprendre à se connaître sur le long terme et qu'ils aient envie de s'investir sur le long terme. Donc, j'ai fait ce choix-là. Donc, moi, c'est une adhésion qui est soit trimestrielle, soit annuelle. Et l'idée derrière, c'est que sur une période donnée, qui peut être 3 mois, qui peut être 1 an, qui peut être plus pour certains, j'ai des membres là qui veulent continuer plusieurs années, donc ça me fait peur. Mais qu'on puisse vraiment, tu vois, aller loin dans la connaissance des uns des autres pour que on puisse créer vraiment des choses fortes dans nos relations qui amènent à des partenariats, à des apports d'affaires mutuels, à de l'amitié. Je pense que c'est un vrai bon mot dans une communauté aussi.
Grave.
Et pas simplement juste des connaissances. Tu vois, on n'est pas en train de faire, en tout cas, je pense que c'est le cas pour toi et moi, on n'est pas en train de faire un réseau d'affaires BNI où chacun est dans son... chacun a son métier, dit « Bonjour, je suis coach. Auriez-vous des clients à me recommander? Et si vous êtes réflexologue, je vous enverrai des gens aussi. » Voilà, on va plus loin que ça. Et ça demande du temps aussi. Et donc, moi, je trouvais que le format d'adhésion qui soit sur le long terme, prenait tout son sens là-dedans.
Ouais, carrément. Et sur l'investissement des personnes aussi, je trouve que ça fait sens, tu vois. Comme on construit quelque chose de finalement assez structuré où il y a une forme de pédagogie à l'intérieur, il y a des interactions, il y a de l'événementiel hyper récurrent sur plein de sujets, notamment les masterclass que je sais qu'on fait toi et moi dans nos communautés de manière hyper régulière. Mais je me dis, pour que les gens tirent un max de ça, mais aussi recontribuent, c'est important qu'il y ait un investissement de toutes nos ressources, temps, espace mental, etc., mais aussi financier, ce qui fait qu'on est plus investi et c'est pas juste on vient pour prendre, mais on vient aussi pour donner. Et je trouve que ça, le gap de l'adhésion fait clairement une partie de ce travail-là, mais aussi nous offre à nous deux, et je sais pour source que d'autres qui ont ce modèle-là, ça le fait aussi, une belle stabilité pour être sûr de contribuer au maximum, tu vois, et pas être en mode je suis là parce que c'est intéressant de fédérer pour ensuite vendre d'autres choses, mais que le modèle soit autosuffisant et qu'on se dise, ben voilà, je sais qu'avec ce modèle-là, je peux investir tout ce que j'ai envie d'investir en termes de ma contribution aux membres parce que le modèle se suffit à lui-même et c'est pas juste un moyen pour arriver vers le fait de vendre de la formation ou autre chose derrière, même si clairement ça peut faire partie du modèle, moi c'est le cas, mais je sais que le modèle de la communauté se suffit à lui-même et rien que là c'est déjà dingue toute la valeur qu'on peut réinvestir sur la contribution qu'on fait aux membres.
Ouais, je suis entièrement d'accord et c'est un modèle qui se prête énormément et c'est le fondement de ça, à la relation. Et en fait, quand tu crées une relation sincère, généreuse, humaine et authentique, ça a forcément des répercussions naturelles sur le reste de ton activité. Donc moi, je vois des membres du cercle qui deviennent...
Ouais.
Je fais des accompagnements individuels que j'appelle tremplin. Et il y en a qui me demandent à rejoindre tremplin. Et inversement, tu vois, hein, bien sûr. Mais dès que tu vas mettre de la générosité et de l'humain dans ce que tu fais, si tu délivres une expérience qui est vraiment forte au service des gens, tu y gagnes non seulement avec ce modèle-là, mais ça rayonne aussi sur tous les autres pans de ton activité. Et donc moi, je vois des, si on a différentes strates ou différentes échelles de ce qu'on fait dans notre business model, on peut appeler ça comme ça, les uns vont rayonner avec les autres. Et donc moi, je vois, enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Et je suis sûr que des gens qui ont même quitté le cercle, parce qu'il y en a, comme dans toute communauté, je sais que je vais les recroiser peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans,
grave,
sur une autre initiative que je vais faire, sur un accompagnement, sur un stage sur la créativité que j'ai envie de proposer, sur whatever le truc, tu vois, une initiative folle. Mais voilà, on a fait ce morceau de chemin ensemble et je sais que ça va rayonner sur d'autres morceaux de mon chemin futur.
Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ça tisse des relations qui sont assez dingues en termes de proximité, quoi. Et ça, je trouve, c'est hyper fascinant aussi à quel point passer de la relation, comme tu disais tout à l'heure, un peu unilatérale de « on produit du contenu, les personnes consomment notre contenu et nous écoutent, nous lisent, nous regardent sur YouTube », VS avoir des vraies conversations avec ces personnes qui font qu'avec le temps, on tisse des relations bien plus poussées, même si le contenu est encore effectivement là, mais ça va plus loin. Et c'est marrant que tu parles de ça, que les gens qui quittent, t'es sûr que tu vas interagir avec eux par derrière. On parlait juste avant de lancer l'enregistrement des espèces de déclencheurs de peur un peu à l'intérieur qui sautent en nous. Et moi, c'est un truc qui vient à chaque fois que quelqu'un part, notamment pour ces raisons de... En fait, il y a trop de contenu, j'arrive pas à tout consommer et du coup, je fais le choix de sortir. Il y a toujours ce petit truc où je me dis, putain, j'ai peur que cette personne, du coup, projette que, ok, bah, si la communauté de Thomas, ça va pas, toutes les autres choses qu'il fait, ça ira pas non plus, tu vois. Et que je les recroise pas, alors que j'ai trop envie de contribuer à leur chemin, tu vois. Quand les gens rejoignent la communauté, je suis en mode, putain, trop stylé, je vais pouvoir aider une nouvelle personne et apprendre à savoir là où je peux contribuer pour elle. Et quand elle part, j'ai toujours ce petit truc à l'intérieur de, ah, et si c'est la dernière fois que je peux lui apporter quelque chose, putain, c'est un déchirement un peu, tu vois.
Je suis tellement dans cette même logique-là. C'est incroyable parce que on se rend pas compte, mais en fait, on interagit avec des personnes qui sont à un instant T avec ce qu'ils ont besoin à un instant T. Et peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ils auront pas besoin de nous pour ça. Mais, ouais. Tu vois, on y attache beaucoup d'affect parce que moi aussi, j'ai tellement à cœur que les gens soient contents et qu'ils puissent progresser et avancer grâce à ce que j'essaie de leur apporter que quand j'en ai qui s'arrêtent, je me dis merde. Qu'est-ce que t'as fait? Où est-ce que t'as déconné? Pourquoi ça a pas
exactement
marché? Et en fait, t'as trop plein de raisons. Il faut se détacher de ça. Ça peut être des raisons financières. Ça peut être des raisons de trop plein en ce moment et besoin de lâcher prise. Ça peut être des raisons de juste, je sens que j'ai eu ce que j'avais besoin et là, on se reverra plus tard sur un autre morceau de chemin. Et en fait, c'est très, très difficile, mais on apprend, je pense, tous les deux à être fine avec ça petit à petit, quoi.
Ouais, mais c'est un vrai travail.
J'ai vraiment eu ça il y a 3 jours. Là, on est en pleine période de renouvellement des adhésions du cercle. Moi, c'était des gens qui s'étaient abonnés sur 3 mois et je savais pas ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient annuler, repartir sur 3 mois ou passer à l'annuel? Et t'as une petite portion qui décide d'annuler. Et à côté, t'en as plein qui disent, moi, je passe à l'annuel et c'est génial. Enfin, à tous les niveaux, je suis trop heureux. Ça me fait trop plaisir. Mais les 4-5 qui décident d'annuler, j'ai envie de pleurer, quoi. Et en fait, c'est tout bête, quoi. Mais quand tu leur demandes, il y a plein de raisons. Et tu vois, il y a une fille qui m'a envoyé un message ce matin qui s'appelle Laura, qui est adorable, qui m'a dit, j'ai besoin de 3 mois et dans 3 mois, je reviens et cette fois, je prendrai l'annuel parce que je sais que pendant 1 an, je vais avoir besoin de ce soutien-là. Mmh. Mais là, jusqu'à octobre, c'est trop intense.
Ouais.
Fine. C'est bien. C'est bien. Ouais. Je suis heureux qu'il s'arrête parfois, même si ça me rend triste.
Ouais, complètement. Et comment tu gères ça, du coup, par rapport au fait de, je sais que tous les deux, on a un modèle de ouverture des adhésions, ouverture des portes, puis fermeture pendant un temps, qui prend ses racines dans le fait qu'on a envie de fédérer les nouvelles personnes qui arrivent et de créer une communauté forte et pas juste l'effet groupe Facebook où tu viens, tu pars un peu à ta guise et du coup, tu crées pas de vraies relations et on peut pas accompagner l'arrivée des gens. Comment tu fais pour gérer les gens qui te disent justement ça de, ben voilà, là, c'est trop pour moi, j'ai besoin de prendre une pause, mais je reviendrai plus tard.
Assez naturellement. Moi, je leur... tu vois, cette personne-là, je lui ai juste dit, ben, écoute, je lui ai envoyé ça par mail. Je lui ai dit, je suis trop heureux que t'arrêtes l'adhésion. Je lui ai dit, je suis triste parce que je suis content que tu puisses... Enfin, je suis content de pouvoir t'accompagner, qu'on avance ensemble et que tu puisses bien t'entourer. Mais je comprends complètement. Et en fait, je pense que si grâce au cercle, t'as eu ce cheminement-là qui te fait te dire aujourd'hui que t'as besoin de cette pause-là pour ensuite revenir...
Ouais.
Je te prends dans mes bras et ça va être trop génial. On va se revoir dans 3 mois et tu pourras aller encore plus loin. Donc, non, j'ai assez bien ça. Et en fait, le cercle a une vocation d'ouvrir ses portes, comme tu disais, régulièrement, mais de les refermer ensuite pour vraiment créer quelque chose de fort et des liens forts entre les gens qui le rejoignent.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est assez simple. Si une personne s'arrête, bah, elle prendra rejoindre une prochaine fois et puis c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de souci.
Ouais. Et pour elle, il se trouve que c'est le bon timing parce que justement, 3 mois plus tard, les portes réouvrent, quoi.
Ouais, exactement. Mais je pense que quelqu'un même qui a déjà été membre du cercle et qui me demande de revenir, je pense que je pourrais lui rouvrir en temps normal. Parce qu'en fait, il connaît déjà le fonctionnement. Il connaît des gens qui a démarré peut-être il y a 6 mois, 3 mois, 9 mois. Donc, j'ai pas réfléchi parce que j'ai pas eu le cas de figure encore. Mais c'est moins problématique que quelqu'un de nouveau. Où là, il y a vraiment une volonté d'accueillir dans la maison et qu'on arrête d'être étranger. Ce que je disais tout à l'heure.
Ouais, parce que je réfléchis à ça aussi, tu vois, de c'est quoi les différents niveaux d'entrée et comment tu fais pour structurer ça et mieux le gérer. Parce qu'effectivement, des gens qui connaissent déjà, finalement, ça fait sens qu'ils puissent revenir à tout moment. Et en même temps, la première réflexion que j'avais eu au tout début, c'est bah si ça arrive à ce stade-là, en fait, c'est ultra déstabilisant pour nous aussi. Parce que si les gens peuvent venir, repartir un peu à leur guise, en fait, il y a des gens qui peut-être vont commencer une conversation, puis ils vont partir, et l'autre personne qui est dans la communauté, elle se dit, bah, merde, elle est partie. Puis ensuite, le mois prochain, elle revient. Et du coup, on reprend la conversation. Et du coup, je me dis, c'est déstabilisant pour la vie de la communauté que ça se fasse à ce stade-là. Et donc, c'est pas ce que j'ai envie de favoriser, que des gens viennent et repartent, même s'ils connaissent le système. Mais du coup, il y a plein de nuances dans cette structuration de comment tu fais pour fédérer les arrivées, les sorties. Donc, j'y réfléchis pas mal. J'ai pas encore trouvé la solution sur laquelle je vais atterrir, mais ça fait partie du chemin, quoi.
On en a pas parlé aussi, mais l'onboarding, quand les gens arrivent, c'est un moment qui est hyper important. Moi, je sais que je l'ai beaucoup retravaillé depuis 1 an, là, sur le cercle. Et t'as vraiment des trucs qui...
Grave.
C'est un temps d'accueil, un temps d'intégration, un temps de se connaître les uns les autres. Et c'est hyper important à prendre en compte dès le début, quoi.
Ouais, grave. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. Comment faire en sorte de dépasser cet effet, t'arrives, t'es dans ton coin avec ta bière et tu sais pas comment aborder les gens et faire en sorte de recréer des micro-interactions qui se poursuivent après. Moi, je le fais notamment avec un gros événement d'accueil. Mais ça prend beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Moi, j'arrive à un stade avec tous les lancements que j'ai fait en début d'année où je me dis, en fait, je vais peut-être ouvrir les portes qu'une seule fois par an parce que entre préparation du lancement, le lancement, l'accueil des gens, toute la phase intégration de toutes les personnes qui prennent leur marque et que j'ai vraiment envie d'accompagner ça. En vrai, ça prend 1 mois, même plus d'un mois entier, tu vois. Et du coup, je me dis, en fait, je peux le faire qu'une fois par an, cet investissement avec toutes les autres choses que je fais. Et du coup, il y a ça aussi qui joue sur le fait que bah, j'ai envie d'offrir cette expérience qui est fascinante à de plus en plus de personnes. Et en même temps, pour prendre soin de mon propre équilibre et de ce que j'ai envie d'offrir dans l'arrivée aux personnes, ben, je peux pas non plus ouvrir tout le temps, quoi. Donc, ouais, il y a ces deux niveaux-là qui sont intéressants, qui rejouent aussi sur la question du modèle économique dont on parlait avant. Donc là, c'est plein de nœuds à aller explorer.
Ouais, à fond. Mais c'est passionnant. Je suis d'accord avec toi, hein, ça pose plein de questions. Et comme tu le dis, l'intégration, elle est longue, mais elle est importante. C'est clair.
Ouais, grave. Je te propose du coup que, après cette fantastique conversation, je ne sais pas si tu as un truc à ajouter sur le modèle de la communauté, mais c'était un dernier truc à ajouter, sinon on va arriver sur les questions rituelles de fin d'épisode qui se tournent vers toi.
Ouais, écoute, je pensais juste, juste à un truc. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué sur la communauté, ça reste Tribes de Seth Godin. Donc si vous avez envie de monter une communauté et de prendre le pouvoir, entre guillemets, hein, dans le bon sens, mais prendre le pouvoir pour aider les autres, pour servir, lisez ce livre. C'est simple et fondamental.
100% d'accord. Et d'ailleurs, tout le travail de Seth Godin, par ailleurs, au-delà de juste cet ouvrage-là sur les tribus, mais toute la réflexion sur le marketing et tout, je vous invite aussi à explorer de plus proche tout le travail de Seth Godin. Cool. Merci pour cette dernière petite ressource, Kylian. Du coup, je te propose qu'on se tourne un peu vers toi maintenant, avec les questions de sortie d'épisode, comme on l'a fait au début avec la première. Et là, on arrive sur la première question rituelle de fin, qui est, si tu étais face à un Kylian plus jeune, c'est son premier jour d'indépendance, c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même?
C'est un conseil tout simple, mais qui est absolument incroyable. C'est juste, fais plus des choses qui te font peur. Juste, je pense que le Kylian plus jeune, il est terrifié de plein de choses, et le Kylian d'aujourd'hui, il l'est aussi. Mais le Kylian d'aujourd'hui, il sait que quand tu fais des choses qui te font peur et que tu fais plus des choses qui te font peur, tu vas vraiment dégommer des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, tu vas être beaucoup plus épanoui, tu vas faire des choses qui sont beaucoup plus atypiques, et tu vas juste te sentir beaucoup plus vivant derrière. Donc vraiment, fais plus des choses qui te font peur. C'est vraiment un truc qui est important pour moi. C'est une vraie clé de lecture de chemin de vie qu'on a, et il faut aller vers ça plus.
Ouais. Et tu sais, ça me fait ça me fait repenser à d'autres choses qui se passent dans ma communauté, et je pense que tu peux partager ce point de vue, parce que ça s'est sûrement passé chez toi aussi dans le cercle. Quand tu parles de ce truc de la peur et d'oser la dépasser plus souvent, je pense que des exemples de personnes qui dépassent ça aussi et les mêmes choses sur lesquelles on a peur, ça aide énormément à passer ces caps-là. Et moi, je le vois souvent, c'est des histoires que les gens vont raconter dans la communauté, ils vont partager un post de « Oh, j'ai fait ça » ou « J'étais pétrifié de faire ça, mais j'ai réussi » et que ça inspire d'autres gens à passer à l'action. Et je me dis, ça aussi, c'est un truc incroyable dans nos communautés respectives. Je pense que tu arrives à identifier des personnes qui ont fait ce que tu as peur de faire et qui vont te soutenir pour le faire, et tu passes à l'action, et tu vois, ensemble, on gravit ces étapes là où quand on est seul. Et j'imagine que c'est peut-être ça aussi le conseil au Kylian du passé, c'est quand t'es seul face aux trucs qui te font peur, ben la peur elle est plus grande, tu vois, elle prend plus de place que quand t'es accompagné.
C'est clair, entièrement d'accord avec ça. Vraiment, appuie-toi sur l'entourage pour surmonter ça. Et quand t'as peur, entoure-toi de gens qui ont peur aussi et parlez-en. Et en fait, tu vas aller plus loin comme ça.
Ouais, grave. Je sais pas si t'as une petite histoire à nous raconter sur ça. Je suis curieux d'avoir peut-être des bribes du cercle, une histoire sur quelqu'un qui a dépassé une peur sur un sujet grâce à l'entourage.
Ouais, bien sûr. J'ai un excellent exemple d'une fille qui s'appelle Coralie, qui a très très peur parfois de se montrer publiquement, partager publiquement, raconter des choses publiquement. C'est pas son truc, ou en tout cas, c'est pas ce qu'elle pense être son truc. Et par tout le travail qu'on a fait dans le cercle, tout l'entourage qu'elle s'est créé, et notamment par un week-end où on s'est retrouvés pour la première fois tous en physique, il y a eu un truc qui s'est débloqué en elle. Et maintenant, je la vois de plus en plus avancer là-dessus, se montrer, partager, raconter ses aventures, ses anecdotes, ses apprentissages. Et je me dis, waouh, c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire que identitairement, il y a un déclic qui s'est produit, qui vient de l'entourage dans lequel elle baigne. Et ça, c'est magique.
Grave. Parce que c'est la norme des autres, donc ça devient sa norme aussi quelque part, je pense.
Exactement. Ouais, je trouve ça absolument fabuleux, parce que je me dis que ça va la changer non seulement là maintenant, mais pour les 15 prochaines années. Et en 15 ans, quand t'as fait sauter ça, ce qui peut se passer, c'est le jour et la nuit.
C'est ouf. Ouais, c'est clair. Parce que qui elle devient aura bien plus d'impact que ce qu'elle obtient, quoi, entre guillemets. Et je trouve ça fou. Moi, ça me fait penser à un truc aussi en ce moment. Du coup, là, on est début juillet à l'enregistrement de cet épisode. En ce moment, dans Inside, il y a un sujet qui challenge pas mal les freelances, comme tu sais, qui est la prospection et le fait d'aller démarcher des nouveaux clients. Et du coup, pour se soutenir là-dessus, il y a certains membres qui ont créé un coworking prospection toutes les semaines, où en gros, c'est on se rassemble et on dépasse la peur d'aller contacter des gens qu'on connaît pas et d'envoyer des mails ou des vidéos. Enfin voilà, chacun a leur stratégie. Et ils se posent pendant une heure et demie toutes les semaines pour juste pour s'accompagner dans le fait d'écrire et appuyer sur envoyer. Alors que quand t'es tout seul ou toute seule, c'est plus complexe de le faire, quoi, parce que t'es toujours pris un peu par ce truc de ah, et si je me fais rejeter, et si personne me répond, etc. Et là, de le faire ensemble, je vois pour plein de personnes que ça crée le rythme et l'espèce de rituel de bah, toutes les semaines, j'envoie des nouvelles propositions, quoi.
Je trouve ça génial. C'est vraiment magnifique et c'est fait pour ça, donc trop, trop bonne initiative.
Ouais, deux petits exemples de même comment le faire en dehors de nos communautés, d'ailleurs. Hein. Juste s'entourer d'autres personnes pour le faire, c'est une super belle avancée. Cool.
Ouais, et puis c'est pas un truc qui est révolutionnaire non plus. Hein. Tu sais, on le voit quand on a un bon entourage ou un mauvais entourage, comment ça peut nous tirer vers le haut ou vers le bas. C'est quelque chose qui est assez universel. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi professionnellement de réfléchir à ça. Et surtout, dans un travail salarié, tu vas pas avoir ce luxe-là. Ton entourage, il va souvent être choisi ou imposé. Là, t'as ce choix qui est incroyable de pouvoir te dire vers qui je vais me tourner pour me tirer vers le haut. Et c'est là où des communautés comme le Cercle, des communautés comme Insight, Freelancing, c'est magique. C'est magique.
Grave.
On aurait tort de rester isolé.
Ouais, 100% d'accord avec toi. La prochaine question que je veux te poser dans notre petit rituel de fin d'épisode, c'est quand tu regardes ton parcours depuis que tu t'es lancé 100% à ton compte, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée et comment tu as fait pour la dépasser?
Moi, je pense que le plus gros truc, c'est la peur de manquer. La peur de manquer financièrement. Juste de se dire est-ce que ce qui fonctionnera toujours, est-ce que ce qui fonctionnera assez longtemps, est-ce que tu vas avoir assez pour vivre de ce qui te passionne, et je pense que c'est un truc que j'ai de plus en plus surmonté et en fait vraiment c'est encore présent, c'est toujours présent ce truc là mais t'as vraiment ce truc de te dire ok, comment tu changes d'échelle et comment tu peux te dire ce que tu peux faire sur 10 ans peut être énorme. Et donc, tu changes d'échelle temporelle. Et ça te permet pour moi de recadrer un peu cette peur-là et de me dire, OK, t'as le temps et tout va bien. Et deux, se dire vraiment que quand t'as une tête bien faite, tu retomberas toujours sur tes pieds. Et tu vois, en fait, on s'accroche beaucoup à ce qu'on construit. Mais peut-être qu'en fait, demain, ça prendra une autre forme. Et en fait, tu arriveras quand même à gagner ta vie, quoi. Et même si tout ça s'arrêtait, est-ce que tu arriverais pas à gagner ta vie quand même en retrouvant un CDI, tu vois? Et en fait, ça permet beaucoup de relativiser. Il y a rien de grave, en fait. On a ni toi ni moi n'avons un cancer, et ni toi ni moi n'avons des vrais problèmes très profonds. En fait, on va toujours retomber sur nos pattes. Et pour l'instant, il y a rien de grave. Et ça aide beaucoup à relativiser aussi.
Là, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai été récemment activé par ce truc de peur de manquer. Et c'est assez paradoxal parce que c'est ma plus belle année entrepreneuriale en termes de chiffre d'affaires et finances, avec les lancements que j'ai faits et le fait de me focus à 100% sur le modèle qui me parle le plus. Je pense que ça a beaucoup joué. Et j'ai identifié que ça venait pour moi d'un manque de clarté aussi sur les outils de mesure. Où en gros, je voyais tout d'un coup beaucoup plus d'argent que je n'ai jamais eu dans mon compte bancaire, dans ma trésorerie. Mais que du coup, avec ça, il y a toute la TVA à reverser. Cette année, je crois que je vais verser genre 15 000 euros de TVA, des trucs comme ça. Les charges, parce que je suis pas passé au modèle société encore. Et du coup, il y a toutes les charges de la micro sur tout le chiffre d'affaires. Et en fait, comme c'est allé très vite, j'arrivais plus à suivre qu'est-ce qui est entre guillemets à moi ou à la boîte et qu'est-ce qui est pas à moi. Ce qui faisait que j'ai eu beaucoup d'insécurité là ces derniers mois avec... En plus, là, je déménage, donc il va y avoir tous les investissements pour reconstruire un cocon à moi et un bureau où j'ai envie de vraiment m'équiper pour être top. Et avec tous ces trucs-là de « Oh putain, je sais qu'il y a plein d'argent qui va sortir, il y a de l'argent que je dois à l'État, il y a de l'argent... » Ça m'a mis beaucoup d'insécurité juste sur le manque de clarté, en fait. Et c'était assez dingue de voir la différence de quand j'ai reclarifié, me dire « Ah putain, en fait, je me sens tellement plus à l'aise maintenant, juste que je sais. » Et du coup, j'ai moins que ce que je pensais avoir. Parce que maintenant que j'ai fait les calculs, je me rends compte, bah, y a une grande part qui ressort, en fait, dans pas longtemps. Ouais. Mais rien que la clarté, bah, ça fait du bien aussi.
100% d'accord. 100% d'accord avec ça.
Cool.
Et ça permet de prendre du recul, de relativiser aussi. C'est pas, C'est vraiment notre cerveau reptilien qui voit une peur et qui panique et qui dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait,
ouais,
dans la plupart des cas, il n'y a pas grand-chose. Ça va.
Ouais.
Ça va aller.
Grave. Et je pense que c'est important que tous les deux, on le partage, d'autant plus, tu vois, avec les gens qui suivent notre travail et ainsi de suite, de montrer que, bah, en fait, ça s'en va pas, quoi. Et ce truc-là de peu importe où t'en es, il y a toujours ce genre de peur qui remonte. Peur de manquer, peur de pas être assez. Enfin voilà, c'est des trucs, je pense, universels à l'être humain qu'on vit à différents stades pour différentes raisons. Et c'est cool aussi de montrer que voilà, ça reste et nous aussi on le vit, peu importe où on en est quoi.
Grave. Et ça me fait penser, je lisais un truc très vrai récemment qui disait que tout,
cool,
tout revenait à deux trucs qui sont être aimé et être reconnu. Being loved and being seen. Et en fait, je me rends compte que c'est toujours ça. Et même tout ce qui nous fait briller, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous fait peur, c'est souvent lié à ça aussi. Et c'est un truc qui est vraiment important de... Enfin, moi, c'est assez fort de comprendre ça. À la fois pour moi, mais aussi pour mon rapport avec les autres.
Grave. Ce qui nous mène du coup à la prochaine question. Merci pour ce petit échange, très cool. Et la prochaine question, c'est une question spéciale saison 5. Que du coup tu n'as peut-être pas en tête, mais qui est assez simple, c'est Kylian, c'est quoi ton objectif professionnel du moment?
Mon vrai objectif, enfin il y a des trucs très concrets, mais mon vrai objectif, c'est de faire plus simple. C'est de faire plus simple, de comprendre que on fait pas grandir une activité de 20% en travaillant 20% de plus, mais par contre on la fait grandir en réfléchissant à quel est le cœur de ce que tu peux apporter. Comment tu peux dire non à plein de choses pour faire vraiment ce qui est important? Et c'est pas évident pour moi parce que c'est pas naturel à ce stade, c'est pas dans mon identité encore, mais c'est ma vraie réflexion du moment. Donc mon objectif, c'est ça, la simplicité. Ce qui n'est pas forcément opposé à l'ambition ou à aller chercher des choses loin ou à aller chercher des choses folles que j'aime et que j'ai envie de faire, mais la simplicité, c'est apprendre à dire non, c'est couper des choses, c'est réfléchir à ce qui te draine et ce qui te nourrit. Et c'est tout ça qui te permet d'avancer plus sereinement. C'est très important pour moi en ce moment.
Ok. Et la question qui se cache derrière, qui est ma vraie question, entre guillemets, c'est qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif? Genre, d'où est-ce qu'il vient en toi? Tu dis la simplicité, le fait de dire non, c'est important pour moi en ce moment. D'où ça vient à l'intérieur de toi émotionnellement?
Complètement du trop-plein. Je trouve qu'on fait beaucoup en tant que indépendant, créateur, entrepreneur. Quand on est à notre compte, on est sans cesse en train de courir sur une crête et à tout moment, on peut tomber à droite dans le ravin ou à gauche dans le ravin. Et en fait, parfois, il y a un trop-plein, quoi. Et je me rends compte que si je veux pouvoir me sentir bien dans ce que je fais, être au top physiquement, mentalement, être épanoui, ça passe par aussi simplifier et aller vers des choses simples. Ou à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de format pour pas éclater. Mon but, c'est pas d'éclater en plein vol. J'ai envie d'être là sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, longtemps. et donc, il faut que je fasse attention à moi aussi. Donc, la simplicité.
Ouais. 100% d'accord. Je suis là exactement au même endroit que toi, où j'ai l'impression d'être en apnée tout le temps. Et c'est marrant parce que je me rends compte que c'est vraiment moi qui me l'impose à moi-même. Et il y a des moments où t'en prends conscience de, en fait, je suis pas obligé de faire ça. Et que,
c'est clair.
Et je suis curieux de si tu le vis aussi pareil, parce que moi, je me suis rendu compte de ça que, en gros, il y a cette partie de moi qui est drivée par le désir de contribuer, qui n'a pas de, tu vois, cette part-là, elle a pas d'énergie physique. Genre, c'est une énergie qui est constamment à 100% et constamment en mode, j'ai trop envie de contribuer, et elle trace sa route. Et après, il y a mon corps physique qui suit. Et de temps en temps, genre, je peux plus suivre. Mais l'élan de contribution, c'est ça qui drive. Et tu vois, je suis hyper identifié à ça, que la base de toute mon activité, elle est posée sur qui sont les gens à qui j'ai envie de contribuer, qui sont les gens que j'ai envie d'aider dans leur vie et dans leur processus. Et comme je suis hyper identifié à ça, bah, c'est ça qui drive mes réflexions et mes décisions et mes projets. Et la partie des chevaux énergie physique, bah, elle est laissée de côté. Et c'est récurrent, je pensais à peu près tous les 6 mois, où je me rends compte, ok, là, ton désir de contribuer à dépasser l'énergie dont t'as vraiment, qui est vraiment là dispo et que tu peux ouais, utiliser est... au service de ça, quoi.
On est vraiment gogol. Je suis d'accord avec toi.
Ça te fait ça, toi aussi?
Ouais, complètement. Complètement. Et on est vraiment con parce qu'on voit nos systèmes de fonctionnement et on le voit tous. Et en fait, moi, je suis sûr que beaucoup de gens ont des moments de fatigue ou des coups de down qui viennent un mois, deux mois, trois mois après des grosses périodes de rush. Et en fait, ouais. On n'arrive pas à les repérer parce qu'on est comme, le petit chien qui se rappelle pas qu'il a fait une bêtise il y a trois mois et quand son maître l'engueule, il se dit, mais pourquoi tu m'engueules alors qu'il a pissé dans la maison, tu vois? Et ben, ouais. On est exactement dans ce même cas. On n'arrive pas à repérer que c'est lié au mois d'avant ou trois mois d'avant. Et en fait, voilà, c'est une connaissance de soi, mais il faut s'en rendre compte. C'est ouais, intrinsèquement lié.
Ouais, et être plus effectivement conscientisé, être plus vigilant sur les cycles récurrents et comment est-ce qu'on peut les transformer pour que ça améliore notre quotidien. Parce que clairement, tu vois, là, je suis en plein dans cette phase de grosse fatigue suite à six mois ultra intenses de début d'année. Et j'ai pas envie de vivre ça, tu vois, c'est inconfortable d'en arriver là.
Bien sûr, bien sûr. Vrai, vrai sujet, très important.
Ouais, de ouf. Merci pour ton partage, Kylian. Et pour la dernière petite question rituelle, cette fois-ci, on va se tourner vers les gens qui nous écoutent. Et c'est sûrement ma question préférée parce qu'elle donne naissance à plein de réflexions pour tout le monde. Et je pense que tu sais à quoi t'attendre. C'est, t'as droit à une question que tu peux poser aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles prennent un temps pour réfléchir à leur activité, mais aussi leur vie d'indépendant. C'est quoi la question que tu leur poses?
La vraie question, moi, elle serait très simple, c'est qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous excite? C'est très simple, mais pour moi, tout se retrouve là. Et quand on se sent pas bien, quand on vit pas bien, quand on se désaligne, c'est tout le temps qu'on oublie ces deux questions-là. C'est qu'on va faire des choses qui nous nourrissent moins. Qu'on va dire oui à des projets qui nous font un peu chier ou qui nous épanouissent un peu moins, qui sont un peu... Voilà, il y a une forme de lassitude qui sort de ça quand on oublie ces deux questions. Donc, toujours revenir à ça. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous excite?
Trop bien.
Qu'est-ce qui vous fait sauter de joie? Est-ce qu'il y a des projets qui vous font sauter de joie? Est-ce que, moi, si Thomas, demain, il me dit, viens, on fait un truc comme ça et tout. Est-ce que si je sens qu'en moi, il y a une petite flamme qui dit, waouh, go, let's go. Ça me nourrit, tu vois. Ça m'excite. Et je sais que ce sera un bon choix. En revanche, voilà, il y a plein d'autres choses qui sont pas dans ces deux catégories-là et on les oublie trop.
Trop bien. Merci beaucoup, Kylian. Ça me parle. Ça me parle à fond. Trop cool. Bah, merci pour toute cette conversation. Franchement, très heureux d'avoir exploré cette thématique qui, je sais, nous intéresse et nous fascine tous les deux. Et je pense, j'espère en tout cas que c'est le cas pour d'autres. S'il y a des gens qui veulent venir discuter avec toi, suivre un peu ton travail, peut-être s'intéresser au cercle des créateurs pour rejoindre la prochaine fois que les portes ouvrent, où est-ce que je les envoie?
Ouais, avec grand plaisir. Déjà, je vais suivre le précepte que je propose avec les conversations. S'il y a des gens qui veulent converser, discuter, échanger, juste envoyez-moi un petit message. Je me rends compte qu'on a essayé d'être concret et théorique dans cet épisode, mais il y a des choses qui méritent d'être creusées à votre échelle pour démarrer votre communauté et accélérer ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur kylian avec deux L, .talin@gmail.com. Et puis sinon, très simplement, le site inspirationcreative.co. Il n'y a pas de M parce que le nom de domaine était pris. Mais il ne faut pas hésiter. Il y a plein de choses dessus, une newsletter. C'est vraiment les endroits où je partage et où j'essaie d'apporter le plus. Donc, ce sera un plaisir.
Cool. Trop bien. Mais merci beaucoup, Kylian.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, s'il y a des gens qui veulent savoir des choses sur le cercle aussi, n'hésitez pas à me contacter. Il y a les portes qui rouvrent tous les six mois et la prochaine est en septembre. Voilà.
Excellent. Ben, merci pour ça.
Avec grand plaisir.
À une très bonne journée à toutes les personnes qui ont écouté cette super conversation. Merci à vous.
Ouais. Encore merci Thomas, c'était trop cool.
Ciao. J'ai adoré cette conversation avec Kylian qui, je trouve, a merveilleusement bien illustré autant le fond de la force des communautés dans nos vies, dans le développement de nos projets, dans nos créativités, et aussi la forme de ce modèle de la communauté sur adhésion qu'on suit tous les deux, et les différents challenges et questionnements qui en découlent, autant pour les membres que pour les créateurs. Et personnellement, c'est vraiment une des plus belles aventures professionnelles que j'ai vécues, d'offrir cet espace, ou comme le disait Kylian, cette maison pour les indépendants et les indépendantes qui veulent se regrouper pour avancer ensemble. Et quand je vois les liens qui se sont forgés, les belles histoires qui en découlent, vraiment ça me touche énormément et je trouve ça fascinant, ce qu'on peut construire quand on se met ensemble et qu'on avance en communauté. Et je te souhaite d'ailleurs à toi aussi vraiment de pouvoir vivre ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans nos communautés avec Kylian ou par ailleurs. Et si c'est dans Inside Freelancing, alors ce sera un vrai plaisir et un honneur pour moi d'être à ton service. Et je suis sûr que les autres membres de la communauté partageront ce que je te dis là. Mais d'ici là, je n'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse fin de journée. Et on se retrouve tout bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.